océans. Le Premier ministre rassemble un comité interministériel de la mer à Saint-Nazaire. Pollution, pêche illégale, changement climatique. L'océan fait l'objet de multiples défis environnementaux, économiques et géopolitiques. Et on apprend ce matin la mort de Marcel Ophuls, maître français du documentaire historique, auteur du film Le Chagrin et la Pitié sur la France de Vichy. Le réalisateur est décédé samedi dans sa maison du sud-ouest de la France. C'est ce qu'a indiqué sa famille.
Merci beaucoup, Cécile Mérieux, pour les informations. Et Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, est Laurent Aventin, économiste de la santé, consultant indépendant. Il a publié une enquête qui s'appelle « Les aspects économiques de l'aide à mourir entre conflits d'intérêts et risques d'utilitarisme de la vie humaine » pour le think tank Institut éthique et politique.
Oui, demain auront lieu à l'Assemblée deux votes solennels, on le sait, hein, l'un sur les soins palliatifs et l'autre sur le droit à l'aide à mourir. Les députés avaient entamé le 12 mai l'examen en première lecture de ces deux propositions de loi portées par Annie Vidal Renaissance, Olivier Falorni du groupe Modem. Le texte sur l'euthanasie représentera, s'il aboutit, la grande réforme de société à laquelle le nom d'Emmanuel Macron restera associé. Au mois de mai, donc, on en est là aujourd'hui. Maintenant, on verra bien comment les choses évoluent demain. Dans les médias, on constate en tout cas un déni de l'aspect économique, comme si l'émotion suscitée par la peur de souffrir était le levier le plus efficace pour obtenir l'adhésion de l'opinion et des députés. Il n'existe pas d'études à proprement parler faisant état des économies réalisées par l'État grâce aux politiques euthanasiques. Économies potentiellement bien plus importantes que les frais de santé de la dernière année de vie. Cette étude a été réalisée par Laurent Aventin, économiste de la santé. Elle s'appelle, comme vous l'avez dit, « Les aspects économiques de l'aide à mourir entre conflits d'intérêts et risques d'utilitarisme de la vie humaine ». Aventin.
Bonjour.
Aujourd'hui, merci. On peut dire quand même qu'il existe certaines études qui ont été publiées, notamment, je pense, à l'Inspection Générale des Affaires Sociales, l'IGAS, qui a quand même, sur laquelle d'ailleurs vous vous appuyez en partie pour dévoiler quelques chiffres. Est-ce qu'on peut dire que s'il n'y a pas d'études, c'est que la question est quelque peu taboue ?
Alors oui, tout à fait. Normalement, il y aurait dû y avoir une étude en fait, d'impact qui a été réalisée en amont avant la proposition de loi sur les questions économiques précisément. Et c'est un sujet qui n'a pas été traité par la commission en fait en charge de ce projet de loi. Donc on peut effectivement s'interroger et se demander pourquoi ce sujet a été écarté par rapport à une loi qui a un impact sociétal très très important.
Qui aurait dû mener cette étude?
Alors normalement, il y a une commission hein, donc qui est en charge de ce dossier à l'Assemblée nationale. Donc en général, avant les projets de loi, on a des études qui sont conduites pour essayer de mesurer précisément l'impact de ces études. Donc c'est un sujet qui n'a pas été abordé par la commission. Il y a eu d'autres choses qui ont été présentées évidemment, mais les aspects économiques sont totalement absents de cette réflexion qui est nécessaire en fait avant les propositions de loi.
Alors que les aspects philosophiques et émotionnels, si on peut dire, sont largement abordés. Qu'est-ce que ça veut dire les aspects économiques de la fin de vie, Laurent Aventin?
Les aspects économiques de la fin de vie, c'est simplement quelles sont les incidences en fait liées à cette loi sur leur mise en œuvre. Donc, on voit bien que dans un contexte qui est particulièrement difficile, où l'État, le gouvernement cherche à faire des économies budgétaires sur à peu près tous les postes publics, on a des difficultés. En France, par exemple, bon, si vous touchez aux questions sociales, bon, on le voit bien avec la problématique des retraites, par exemple, vous avez tout de suite des levées de boucliers qui sont assez importantes. Là, la question qu'on peut se poser, c'est que en incitant en fait les plus vulnérables à se tourner vers ce type de proposition, hein, donc à savoir l'euthanasie et le suicide assisté, on peut se poser la question de savoir si derrière il n'y a pas également un objectif qui est finalement de faire des économies budgétaires. Je m'explique, depuis les années 80, et notamment le travail qu'avait fait M. Jacques Attali sur le sujet de l'euthanasie, dans un de ses ouvrages qui avait été publié au début des années 80, il était dit que la personne malade coûte plus cher, enfin la personne en fin de vie en fait coûte plus cher les 3 ou les 6 derniers mois de sa vie que tout le reste de sa vie dans le domaine de la santé. C'est une idée totalement fausse en fait. Ce n'est absolument pas le cas. Il n'y a aucune étude en économie qui démontre cela. En réalité, les personnes qui ont des maladies chroniques, les personnes qui sont atteintes de maladies à longue durée, coûtent au système de santé beaucoup plus cher que les personnes en fin de vie. Donc une personne en fin de vie, sur ses 3 derniers mois de vie, coûte à peu près 10 fois plus cher qu'une personne qui n'a pas de problème de santé particulier, mais c'est sur une période extrêmement courte. En revanche, sur des périodes relativement, sur des maladies chroniques, évidemment, qui ne mettent pas en danger en fait la vie de la personne, ben on a des coûts récurrents qui sont forcément plus élevés qu'une personne qui est en bonne santé. Mais c'est le système de répartition des coûts et le système de la mutualisation en fait du risque qui permet justement aux personnes précisément qui ont besoin de soins. D'être appuyé par le financement, la cotisation de ceux qui sont en bonne santé.
Voilà. C'est le principe de la mutualisation.
C'est le principe de la mutualisation. Donc on peut se demander si en incitant les personnes les plus vulnérables, par exemple les personnes évidemment âgées qui touchent l'allocation vieillesse, mais aussi les personnes handicapées qui touchent une allocation handicapée, les personnes finalement qui sont également au chômage, qui touchent une allocation au chômage, enfin toutes les personnes qui peuvent être en difficulté, que ce soit des difficultés liées à la santé, des difficultés professionnelles, des difficultés familiales, etc., ne vont pas être incitées à se présenter comme étant des candidats pour cette loi. Alors on peut bien imaginer qu'une personne qui est relativement jeune, qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, si elle accède à ce système-là, on voit très facilement, si on calcule l'espérance de vie autour de 75-80 ans, quel est le niveau des économies qui sont réalisées si cette personne disparaît prématurément.
Vous l'avez évalué, ce niveau ?
Alors, c'est très difficile à évaluer. Il y a un économiste là récemment qui a évoqué une économie de 1,4 milliard. En réalité, c'est très difficile parce que vous pouvez faire une modélisation, mais cette modélisation, elle va dépendre de plusieurs facteurs, notamment l'âge de la personne. Évidemment, une personne ferait beaucoup moins d'économies budgétaires sur une personne en fin de vie que sur une personne qui a 30 ou 40 ans et qui est susceptible de vivre encore une quarantaine d'années. Donc il y a le niveau des allocations dont elle bénéficie. Voilà, donc ça c'est le montant est variable évidemment en fonction du type d'allocation. Donc ce sont des facteurs qui sont très difficiles à évaluer. Et puis le troisième élément qui est évidemment très important, c'est celui de la participation en fait de la population à cette proposition en fait.
C'est la question de l'assentiment, du consentement en fait.
Exactement, oui. Il y a la notion de consentement et on voit bien que chez dans les pays voisins, que ce soit le Canada, la Belgique, les Pays-Bas, on voit bien que on a un taux de participation qui est de plus en plus important, et qui dépasse largement le cadre des personnes qui ont uniquement des problèmes de santé ou dont le pronostic vital est engagé. Évidemment.
Mais Laurent Aventin, des pays comme le Canada, justement, ont déjà réalisé des études sur les aspects économiques de l'aide à mourir. C'est la France qui ne l'a pas fait, du moins de manière officielle, explicite. En revanche, on a des éléments qui permettent de penser que ça peut faire des économies à l'État, dans d'autres pays.
Tout à fait. Donc le Canada a effectivement proposé, récemment, donner des informations en fait sur les économies qui sont susceptibles d'être réalisées. On a quelques éléments, mais ces études sont tout à fait incomplètes parce qu'en fait, les critères qui ont été mis en place ne permettent pas de montrer en fait la catégorie précisément de population qui demande l'euthanasie ou suicide assisté. Donc, d'indicateurs suffisamment précis pour dire que ce sont les populations les plus vulnérables. En revanche, on a des témoignages Donc bah, quelques témoignages en tout cas qui montrent que les choix qui sont faits par les volontaires pour l'euthanasie et le suicide assisté sont des personnes dont le pronostic vital n'est absolument pas engagé. Et puis l'autre facteur qui est évidemment problématique, c'est que on peut très vite faire une demande et être exaucé dans les 24 heures, entre guillemets. Donc il n'y a pas de temps de recul, il n'y a pas de temps de réflexion. Voilà, et on a des gens qui peuvent passer à l'acte et qui ont besoin finalement d'être aidés plutôt que d'accéder à une procédure de décès assuré, en fait. Hein, voilà. Donc on est vraiment sur un texte qui, à mon sens, est totalement anti-républicain, parce que finalement, au lieu de venir en aide aux personnes qui en ont besoin, on leur dit bah, vous pouvez partir, quoi. Et en fait, en partant, vous avez le faux sentiment de régler les problèmes de cette personne. Mais en fait, vous ne réglez strictement rien.
Mais la question, Laurent Aventin, c'est que la question de l'évaluation des économies faites par l'État n'est pas clairement établie. Parce qu'aujourd'hui, vous dites qu'il y a un conflit d'intérêts pour le législateur français, puisque des politiques d'aide à mourir s'inscrivent potentiellement comme un régulateur des dépenses budgétaires par l'élimination des plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui sont le plus à la charge de l'État-providence. Est-ce qu'on a évalué les économies faites par l'élimination des plus vulnérables ? C'est ça la question.
Alors, c'est ce que
si c'est juste 1,4 milliard d'euros, c'est pas grand-chose, hein ?
Non, on est d'accord. Ces 1,4 milliard d'euros, c'est calculé sur la base du nombre de personnes qui sont susceptibles aujourd'hui d'accéder à ce dispositif. Il faut savoir que au Canada, par exemple, on a certains États où la première cause de mortalité, c'est aujourd'hui le suicide assisté et l'euthanasie. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui plus de demandes de décès par ce dispositif-là que des décès qui sont liés à l'insuffisance respiratoire, au cancer, aux problèmes cardiologiques, etc. Donc, qui sont généralement les premières causes de mortalité dans nos pays occidentaux. Donc, ça veut dire que dans certains États, vous avez un nombre de personnes très important qui sont en difficulté et qui viennent demander une mort prématurée par ce dispositif. Et ça, ça devrait soulever des problèmes très importants. Et évidemment que les économies sont bien plus importantes dans ces États-là que dans les lieux ou les États dans lesquels cela va représenter 1% des décès. Mais lorsque ça représente 15% des décès, vous pouvez imaginer que les économies sont considérables si on arrive à montrer que ces gens-là bénéficient par ailleurs d'appui de l'État et d'allocations diverses et variées.
Les mutuelles,
ces calculs-là ne sont pas établis aujourd'hui.
Laurent Aventin, les mutuelles donnent-elles des informations sur l'intérêt qu'elles peuvent avoir à soutenir la politique euthanasique ?
Alors, les mutuelles se sont positionnées, enfin certaines mutuelles, hein, il ne faut pas généraliser non plus, je pense que c'est important de le préciser pour nos auditeurs, certaines mutuelles se sont positionnées très clairement en faveur de la loi Falourny. Voilà, alors très certainement, évidemment, pour des questions d'abord idéologiques, mais ça paraît aussi évident que ces mutuelles-là ont un intérêt économique, évidemment, puisque elles remboursent les soins. Et que pour eux, un patient qui va passer par ce dispositif-là, c'est simplement, ça signifie l'arrêt des dépenses de soins pour les mutuelles. Donc, si ce sont des personnes qui ont des pathologies lourdes, avec des coûts qui sont importants à la charge du système de santé, c'est-à-dire de la sécurité sociale et de la mutuelle de santé, c'est évident que c'est bénéfique pour eux. Ce n'est pas le secteur automobile ou le secteur de l'industrie minière qui s'est positionné sur ces questions-là. C'est le secteur des mutuelles de santé. Donc ça soulève quand même des questions qui sont évidentes en termes d'intérêt économique. Les mutuelles profiteraient de ce dispositif économiquement parlant, ce ne serait pas le cas d'une autre industrie.
Il est clair que la mort administrée va engendrer des économies non négligeables, a dit Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État, qu'on connaît bien ici pour d'autres raisons et qui a aussi étudié la question. Déjà évalué donc par le gouvernement, dit-il, il aurait pu être procédé à ce chiffrage en s'appuyant sur un rapport de l'IGAS qui avait déjà communiqué sur les dépenses de l'assurance maladie en fin de vie qui s'élève à 6,6 milliards d'euros par an. La dépendance en France, c'est 28 milliards d'euros par an et il va manquer 110 000 places en EHPAD dans les 5 ans. sachant que la part des 65 ans va passer à 28% de la population à l'horizon, dans les 5 ans qui viennent, contre 20% en 2020. Donc tous les voyants sont au rouge. Il y a donc urgence à agir pour faire des économies. Ça, c'est votre thèse. Mais dans quelle mesure on plaide le conflit d'intérêts, Laurent Aventin ? C'est ma dernière question.
Ce qui permettrait de montrer le conflit d'intérêts, c'est de pouvoir faire une évaluation précisément économique de la mise en œuvre de cette loi. Pour l'instant,
c'est un peu tôt.
Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de volonté politique dans ce sens. C'est-à-dire que il paraîtrait évident que si on se penche sur ces questions-là, on va mettre en évidence un intérêt économique. Donc, il y aura un conflit d'intérêts parce que le législateur ne peut pas mettre, normalement, ne devrait pas pouvoir mettre en tout cas en place une loi sur une motivation qui n'est pas celle annoncée. Et on voit bien que, oui, il y a un intérêt économique qui est majeur, qui est très important pour l'État, surtout dans un pays où, dès que vous touchez aux avantages sociaux, forcément, vous avez des levées de boucliers qui sont assez importantes et qui paralysent l'économie. Donc, bien sûr, on ne peut pas passer par la coupure de ces avantages sociaux. Un moyen détourné d'y arriver, c'est par exemple de mettre en place ce type de loi en disant qu'il n'a rien à voir avec ces sujets-là. Et c'est malheureusement les arguments qui sont aujourd'hui avancés.
Merci.
Voilà.
Merci Laurent Aventin. Et je renvoie donc à cette enquête que vous avez menée sur les aspects économiques de l'aide à mourir pour le compte de l'Institut Éthique et Politique. Et je précise qu'une lettre a été envoyée aux députés, d'ailleurs, à tous les députés et aux sénateurs également, qui renvoient à cette enquête que vous avez menée. Je rappelle que vous êtes économiste de la santé. Merci.
Et merci à vous, Louis Dauphren. Louis, on vous retrouve à 9h10 pour le débat du jour.